Je donne maintenant la parole à Jean-Louis Forest, président de notre fédération. La parole est à Jean-Louis.
Mesdames, messieurs, mes camarades, il me faut en cet instant cesser d'être auditeur pour devenir orateur, et cela, je l'avoue, ne m'est pas facile. Car je n'ai pas encore dégagé mon esprit de ce long et fraternel voyage dans un passé de 20 ans auquel viennent de nous convier successivement notre cher Georges Beauchamp, fondateur de la Fédération nationale des déportés du travail et président de la Confédération internationale des déportés du travail, notre cher ami Auguste Rössler, président de la Fédération belge des travailleurs déportés et réfractaires et vivant symbole de cette Confédération internationale, et aussi cet excellent serviteur de notre cause, cet éloquent défenseur qu'est André Méniaud, membre du comité directeur national et responsable de l'organisation de ce rassemblement.
Proposant en symbole ce triptyque que constituent les trois orateurs qui l'ont précédé, Jean-Louis Forest souligne que le succès de ces cérémonies du 20e anniversaire justifie et récompense notre lutte de 20 années, puis il poursuit.
Nous n'avons rien oublié, ni les malheurs de la patrie en 1940, ni les hordes nazies investissant nos villes et nos villages, ni la trahison du gouvernement de Vichy se mettant au service de l'occupant. Sur nos 20 ans naissants, le rose de l'aube ne se leva pas. C'était le crépuscule permanent. Hitler et Sauckel mirent sur pied ce diabolique plan d'exploitation des nations vaincues. Alors commencèrent les réquisitions. L'escroquerie de la relève avait échoué. Le volontariat, fort heureusement, n'avait trouvé qu'un faible écho dans la population. C'est alors le décret Sauckel du 22 août 1942 organisant le recrutement forcé dans tous les pays occupés. Ce sont les actes d'Ilois de Pétain du 4 septembre 1942 et du 16 février 1943 créant le service du travail obligatoire. Et là encore, nous n'avons rien oublié. Ni les convocations assorties de contraintes morales et physiques, ni les télégrammes de Laval au préfet, ni l'appui de la force armée, de la milice et de la Gestapo. Contraints et forcés, nous passions du crépuscule à la nuit de l'exil. 600 000 jeunes de toutes conditions étaient déportés du travail. On leur donnait à porter une croix qui n'était pas la leur, mais celle de la France malheureuse et vaincue. Je viens ici, à cette tribune, affirmer qu'ils l'ont porté avec dignité et que ce n'est pas le moindre de leur mérite, de notre mérite, que de ne pas l'avoir laissé porter à d'autres, à leur père, à leur mère ou à leur sœur, menacés d'arrestation en cas de dérobade. Le courage n'est pas toujours assorti de la gloire, mais il n'en est pas moins le courage. Ah, mesdames et messieurs, comme il est aisé aujourd'hui d'affirmer qu'il nous fallait fuir et que c'était possible, mais là encore, nous n'avons rien oublié. Et en particulier qu'entre février 1943 et juillet 1943, date limite de notre déportation massive, la résistance intérieure naissante était incapable de nous camoufler. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil national de la résistance qui l'avoue honnêtement. par la voix de son secrétaire général, M. Pierre Meunier. C'est seulement en juillet 1943 que le Conseil national de la Résistance créa le comité d'action contre la déportation du travail. Contraints et forcés, nous avions pris le train. Mais nous avions au cœur notre foi de Français et d'hommes libres, et c'est cela que nous crions aux portières des wagons en chantant la Marseillaise et l'Internationale. Ce que fut là-bas, notre vie dans la baraque, il nous manque pour vous la compter, la voix des 60 000 des nôtres qui ne sont pas revenus, des 15 000 décapités et fusillés, des 50 000 qui n'ont pas survécu. Que l'on ne s'y trompe pas, si nous ne nous posons pas en héros ni en martyrs, nous avons suffisamment souffert pour prétendre à la qualité de victime.
Rappelons les actions de sabotage, de démoralisation de l'ouvrier allemand, l'organisation de chaînes d'évasion, tous actes qui conduisaient ceux qui s'en rendaient coupables dans les camps de concentration, Jean-Louis Forest poursuit.
Nous reprochons de ne pas avoir été tous arrêtés. Nous leur répondrons que nous nous en réjouissons, comme nous nous réjouissons que tous les prisonniers de guerre saboteurs n'aient pas connu Ravarouska, comme nous nous réjouissons de penser que tous les résistants et patriotes n'aient pas connu l'internement, la torture et la déportation. Soutenus par notre foi et notre amitié, nous avons tenu bon et dignement. Au procès de Nuremberg, où tu fus le témoin de notre génération du malheur, Georges Beauchamp, c'est le procureur français Herzog qui en donnait acte devant l'histoire. Je cite, « La résistance des ouvriers étrangers surprenait l'accusé Sauckel et l'irritait. Il s'en ouvrit au général Jold, adjoint au maréchal Keitel, qui lui répondit, « Vos difficultés viennent de ce que vous vous adressez à des patriotes qui ne partagent pas votre idéal. » Voilà ce que nous fûmes là-bas, mesdames et messieurs, des patriotes. Et pour ne pas tomber dans la grande éloquence, nous dirons tout simplement, nous avons été là-bas des Français.
Avec le printemps de 1945, l'aube tant attendue s'est levée. Rappelant ce que fut la libération, puis le retour, Jean-Louis Forest souligne le rôle social important que, dès l'origine, la Fédération nationale devait jouer dans la nation en faveur de ceux qui étaient le plus marqués par la déportation du travail. Puis s'est posé le problème de la défense de notre honneur, alors même que le Parlement français, après avoir attribué la mention « Mort pour la France » à nos disparus, adoptait à l'unanimité, le 3 mars 1950, le titre de déporté du travail.
Avant d'aller plus loin sur ce terrain, qu'il me soit permis, au nom de la Fédération nationale des déportés du travail, de rendre un solennel hommage à ces hommes et à ces femmes qui ont fait à la patrie et à l'idéal de liberté le don suprême. Oui, qu'il me soit permis de redire une nouvelle fois après Georges Beauchamp qu'ils sont des Christs qui ont souffert 1000 morts. Cet hommage ému, nous n'avons pas attendu le 20e anniversaire pour le prononcer, ni pour apprendre à nos enfants les sinistres résonances de ces syllabes qui forment Sachsenhausen, Nungam, Bornwald, Mauthausen, Dora ou Struthof. Nous adressant aux glorieux survivants, nous les avons assurés que nous ne recherchions aucune confusion entre leurs martyrs et nos souffrances, que nous ne briguions nullement une parcelle de cette auréole qui leur est propre, mais d'une voix aussi franche et aussi fraternelle, nous leur avons également dit « Hitler a commis un crime monstrueux contre la personne humaine. Ce crime a eu 1000 aspects, depuis l'horreur des crématoires jusqu'au massacre du ghetto de Varsovie ou d'Oradour-sur-Glane, en passant notamment par la déportation du travail. En essayant de minimiser notre épreuve, en nous faisant grief de ne pas avoir eu plus de 10% de morts, ce n'est pas votre martyr que vous grandissez, il n'en a pas besoin,
c'est la responsabilité de Sauckel et d'Hitler et de leurs hommes que vous voulez diminuer.
Sauckel a été condamné à mort par le tribunal international de Nuremberg et pendu. D'authentiques déportés de la résistance, comme messieurs Badi, Pinault, de Mérigonde, des résistants comme messieurs Auberger, Tourné, de Sesmaison, des veuves de fusillés comme mesdames Mathilde Gabrielle Perry et Gilberte Brossolette sont venus déclarer devant le Parlement que nous étions bien victimes d'une déportation. Jean-Louis Forest ajoute à ces témoignages une brochure éditée en 1943 par le mouvement de la résistance à l'intention des déportés du travail.
Elle débute ainsi. Travailleurs civils français, n'oublie pas, toi qu'on a embarqué de force pour l'Allemagne, tu n'es pas un volontaire mais un forçat, tu n'es pas un travailleur mais un déporté. Et en sa huitième page, elle conclut, déporté, si tu pars en Allemagne en forçat, c'est strictement pour y mener une lutte farouche contre l'ennemi qui a gagné la première manche et pour peser de tout ton poids dans la balance. La France combattante est avec toi. Tu as un rôle essentiel à jouer. La France compte sur toi. Je n'irai pas plus loin, mesdames et messieurs, dans une plaidoirie qui m'est pénible. Non, en ce 20e anniversaire de notre retour, je voudrais, me tournant vers nos frères glorieux de la résistance, leur demander de se souvenir de tout cela. En qualifiant nettement notre épreuve, ils ne trahiront pas leur idéal. Ils rendront justice à toute une génération. Ils garderont pour eux et pour eux seuls le brevet d'héroïsme. Ils nous attribueront seulement notre qualité d'honnête homme. Sur l'autel de l'unité du monde ancien combattant et victime de guerre, nous avons proposé de renoncer au titre de déporté du travail, au titre de travailleurs déportés, pour nous mettre d'accord sur un titre de victime de la déportation du travail, avec le témoignage d'une amitié jamais démentie, celle de nos frères anciens combattants prisonniers de guerre, qui furent là-bas les témoins de notre dignité, nous en appelons à la résistance et au Parlement. 20 ans après le retour, nous sommes encore les enfants sans nom de la famille du malheur. Ah! Il eût été doux l'anniversaire qui nous eût permis de reconstituer le tableau émouvant de cette affiche de 1945. Ils sont unis, ne les divisez pas.
Après avoir souligné que la Fédération nationale des déportés du travail avait su préserver son unité et réaffirmer l'attachement des déportés du travail à la République, à la France et à la démocratie, Jean-Louis Forest appelle à la défense de la paix.
À l'époque où l'homme hante le cosmos, où les distances sont minimisées, où les frontières craquent, où l'échelle humaine devient continentale et mondiale, les déportés du travail pensent que la fraternité du XXe siècle s'appelle la paix. Et c'est à cette défense de la paix qu'ils entendent aussi contribuer. Ils ont appris dans l'exil que la paix n'était pas un don de Dieu, mais qu'elle se méritait. Alors, aux côtés de tous les hommes de bonne volonté, ceux de l'Ouest comme ceux de l'Est, ils sont décidés à œuvrer pour l'avènement d'une ère de compréhension. Non, ce n'est pas vanité. Non, ce n'est pas un vœu pieux. La guerre n'est ni inévitable ni justifiable. Elle est un crime, horreur et douleur. La vocation des petits hommes est à l'opposé. Elle est... Cette vocation des petits hommes, elle aussi, foi, amitié, efficacité sociale. Alors, condamnant la course aux armements, dénonçant le danger atomique, nous joignons notre voix à celle qui parle raison, sagesse et espérance. Oui, nous bâtirons un monde heureux dans le respect de la personne humaine. Nous l'avons esquissé hier devant le mémorial de Dortmund. Nous poursuivrons cette œuvre demain à Brandenburg et à Großbeeren.
Soulignant à nouveau l'amitié qui unit les déportés du travail, aujourd'hui, comme hier dans les camps, Jean-Louis Forest conclut.
À vous, mesdames et messieurs, merci aussi en vos grades et qualités pour ce témoignage d'intérêt et pour ce réconfort moral que porte en elle votre présence. Et merci aussi à toi, France, mon pays. Merci à tous ceux, combattants avec ou sans uniforme, qui t'ont rendu la joie des matins clairs, sans jeter sur les morts le voile noir de l'oubli. Oui, en ce 20e anniversaire, appelant à l'unité du monde ancien combattant victime de guerre et à l'unité des hommes de bonne volonté, faisons nôtre à la Fédération nationale des déportés du travail ta conclusion, ô mon ami Montagne, lorsque tu nous as accueillis au nom des familles martyrs d'Oradour-sur-Glane voici un mois, ni haine, ni oubli.
Les échos de la Marseillaise, la foule compacte et silencieuse quitte la salle de l'Alhambra. Dehors, sous le soleil éclatant, la tête du long cortège qui va marcher à travers Paris vers le tombeau du Père Lachaise est déjà en place. La musique en un ordre parfait. Les drapeaux des associations de Belgique, de toute la France, de la région parisienne, par rang de 10 sont là, frémissant à l'air printanier. Des dizaines et des dizaines de splendides gerbes admirables parterres florales. Derrière les immenses courants de la Fédération nationale et des associations organisatrices, offrent déjà un spectacle grandiose. À l'heure prévue, le long cortège s'ébranle, précédé de l'immense banderole portant le nom de notre fédération. Et c'est la longue marche, imposante et recueillie vers le tombeau du déporté du travail inconnu. Tout le temps de la traversée de la place de la République, tout au long des larges avenues, le peuple de Paris s'arrête dans sa matinale activité du dimanche, pour saluer les drapeaux et voir passer ces milliers d'hommes, graves et silencieux, qui vont vers ce mort inconnu, symbole poignant de leurs milliers de frères tombés en terre ennemie au service de la liberté et de l'humanité. Les drapeaux et la multitude des fleurs décrivent une large courbe et entrent enfin dans la grandiose nécropole du Père Lachaise et à leur suite bientôt y pénètrent le long cortège. Durant la longue montée au travers de la cité des morts, l'âme de chacun est remuée par l'immense sentiment de paix qui règne. La paix, don divin, œuvre humaine, tous ces hommes victimes du plus affreux des crimes, la guerre, l'appel de tout leur cœur en ce moment où ils marchent vers le plus grand monstre, vers celui à qui le monstre guerrier a arraché, et la vie, et son nom, et son visage, mais lui a donné celui de milliers d'autres de ses frères morts sur le même calvaire, pour cette paix humaine dont ses vivants, 20 ans après, le cœur serré plein d'espérance, relotait au nombre des artisans. En hommage aux héros du mur des fédérés et des camps de la mort, le cortège ralentit sa marche avant de s'immobiliser devant le tombeau du déporté du travail inconnu, encadré d'une garde d'honneur, drapé de noir et au-dessus duquel flottent les couleurs nationales. Le tombeau, entouré d'une triplée de drapeaux, disparaît maintenant sous un immense tapis de fleurs, tandis que retentit déchirante la sonnerie aux morts, figeant l'assistance à une poignante rigidité.
Thank you.
tandis que s'élèvent vers le ciel pur les dernières notes du salut déchirant, notre camarade Maurice Cabert, vice-président en fonction, ancien président de notre fédération, la voix brisée par l'émotion renouvelle face au tombeau sacré, au nom des milliers de présents et au nom de tous les déportés du travail réfractaires et éloignés, le serment de fraternité, d'unité et de fidélité prononcé par tous en terre ennemie aux heures sombres. Et puis c'est le lent et le long défilé devant la dalle. C'est l'enfant qui dépose un humble bouquet, tandis qu'au cœur de tous reviennent les derniers mots de Jean-Louis Forest à l'Alhambra. Ni haine, ni oubli.